Voilà, donc nous allons commencer. Je suis déjà très heureuse que vous puissiez être là, malgré les difficultés éventuelles de transport. Et je remercie bien évidemment très particulièrement Laurent Lavaux, qui vient de Montpellier, et qui a dû donc avancer sa venue à hier, pour être sûr d'être là ce soir. Je présente en quelques mots Laurent, avant d'introduire notre soirée, Donc, Laurent Lavaux est actuellement maître de conférence en philosophie ancienne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bon, il est normalien, agrégé de philosophie. Il a été professeur en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques à Montpellier. Il a déposé un dossier d'habilitation à diriger des recherches et je suppose que nous aurons une belle soutenance très prochainement. Il a publié plusieurs ouvrages. Alors, bien évidemment, sa thèse, qui est publié sous le titre « D'une métaphysique à l'autre, figure de l'altérité dans la philosophie de Plotin », que vous trouvez chez Vrin, qui a été publié en 2008. Il a publié aussi, et je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent, un certain nombre de traductions des traités de Plotin, faits dans la collection Garnier-Flammarion. Et donc, il a contribué à cette édition qui rend d'immenses services. Il a aussi diriger un ouvrage qui s'intitule « L'âme amphibie, étude sur l'âme selon Plotin ». Et il a écrit bon nombre d'articles. Je ne vais bien sûr pas tout citer, mais j'ai envie de citer notamment un article publié dans la revue des archives de philosophie, donc ici c'est important, « La métaphore de la liberté, liberté humaine et liberté divine chez Plotin ». Mais il y a une quantité d'autres articles que vous trouverez très facilement sur Internet si vous le souhaitez. Il vient tout juste de publier, fin 2015, ce bel ouvrage, Mystique et Monde, donc au CERF, paru tout récemment. Et c'est bien évidemment en lien avec cet ouvrage qu'il nous a proposé pour ce soir le titre suivant, La mystique. Est-elle une fuite du monde? Alors, je ne vais pas trop entrer moi-même dans le sujet parce que le but, c'est que Laurent expose lui-même ce qu'il a à dire. Mais en tout cas, pour l'avoir lu en partie, pas entièrement, mais je peux dire que c'est un ouvrage clair et très stimulant pour la réflexion et que je vous invite fortement à acheter et à lire, en tout cas. Voilà. En tout cas, Laurent, d'avance, merci et je te donne la parole.
Merci beaucoup, Isabelle, pour cette invitation. Vous m'entendez là dans le micro, ça va? Donc, effectivement, je présenterai quelques thèses qui sont plus ou moins tirées de mes réflexions que j'ai développées dans mon livre, que j'ai publié l'année dernière, sur, finalement, la manière dont le mystique ou les mystiques les personnages qu'on appelle parfois les mystiques, alors j'essaierai de comprendre ce que ça veut dire, vivent dans le monde et visent le monde. C'est-à-dire qu'on a souvent fait le procès aux mystiques de se réfugier peut-être dans une sorte d'ailleurs, d'arrière-monde, hein, pour reprendre les mots de Nietzsche, hein, et comme quoi cette projection une fuite en Dieu serait une manière, une incapacité à vivre dans le monde. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que les mystiques ont un monde et dans quel monde, finalement, vivent-ils? Alors, il y a quelques jours, ça n'a rien à voir au départ avec la préparation de cette conférence, mais je suis tombé sur un passage du livre d'entretien de Jean-Marie Lustiger intitulé « Le choix de Dieu », que certains d'entre vous doivent connaître, où il évoque précisément les figures contrastées de l'athée et du mystique. Donc je cite un petit peu longuement ce qu'il dit. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, en s'approchant du mystère de Dieu, le décrivent comme une nuée obscure au-delà de la connaissance et de toute expérience. On a utilisé ces catégories et ce langage en l'identifiant à l'athéisme qui est exactement inverse. Car la théologie négative n'est pas l'athéisme. Ils se frôlent peut-être comme des abîmes. Ils sont opposés. Et là, j'insiste plus particulièrement sur ce qu'il dit. Il est vrai que le plus grand mystique peut mieux comprendre l'athée et l'athée le plus profond peut toujours devenir un mystique. Mais en même temps, il ne faut pas dire que le mystique qui aime Dieu est un athée, et que l'homme privé de Dieu est initié à son mystère. Donc le cardinal Lustiger, dans cette remarque qui m'a beaucoup frappé, est assez proche de certaines intuitions que j'ai essayé de développer dans mon livre, sur ce rapport entre la mystique et le monde. Je suis en effet parti du constat d'une connivence tout à fait paradoxale entre le mystique et l'athée, figures, comme le rappelle le cardinal Lustiger, qui sont parfaitement antithétiques et qui pourtant présentent de mystérieuses affinités. Ce sont ces affinités qui font que c'est peut-être le mystique qui est le plus à même de comprendre l'athée, comme le rappelle le père Lustiger. L'une de mes hypothèses est que la mystique constitue peut-être l'une des voies de dialogue les plus fécondes avec l'athéisme contemporain. Mais je ne développerai pas tout de suite ce thème. Donc le constat est le suivant. L'incroyant et le mystique peuvent partager une sorte de verdict commun qui est que Dieu, immédiatement, n'apparaît pas dans le monde. Dans la phénoménalité propre au monde, Dieu n'apparaît pas en tant que Dieu. L'interprétation, cependant, que le mystique et l'athée font de ce constat est opposée. Pour l'incroyant, que l'on côtoie tous autour de nous, le non-apparaître divin n'est que le signe, le symptôme de son inexistence. Et le constat est simple, ce qui n'existe pas ne saurait se manifester dans le monde. Le monde, et on l'entend tous les jours dans les médias, se réduit à ses lois propres, internes, qu'elles soient physiques, biologiques ou sociales. Et ces lois, dont leur autosuffisance exclut l'existence divine, devenue finalement peut-être une élucubration superflue. Donc si Dieu n'apparaît pas, c'est que nécessairement il n'existe pas. Pour le mystique, et c'est surtout ce versant-là que j'interrogerai, le sens de cet énoncé « Dieu n'apparaît pas dans le monde » est beaucoup plus complexe. Le but de mon propos aujourd'hui est de poser cette question : comment le mystique peut-il lire cet inapparaître divin dans le monde ? Comment concilier ces deux affirmations, ou ces deux constats, l'inapparaître de Dieu en tant que Dieu dans le monde et l'affirmation conjointe de son existence ? Comment peut-on affirmer que Dieu existe si on ne peut pas le désigner parmi les étangs du monde? Il est clair d'ores et déjà que, pour le mystique, la non-manifestation du divin dans le monde ne saurait être lue comme le signe de son néant. Ce que dit le mystique est qu'il y a dans le monde quelqu'un qui n'apparaît pas. Il saisit la trace d'une présence qui s'accepte du monde, parce qu'elle en déborde les conditions propres de manifestation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas apparaître comme n'importe quelle chose, comme n'importe quel étang du monde. Le mode de phénoménalité de Dieu, le mode d'apparaître de Dieu, pour le mystique, puisqu'il y a quand même un mode d'apparaître de Dieu qu'on va essayer d'interroger, le mode d'apparaître de Dieu tranche avec le mode d'apparaître des êtres du monde. Et il y a, comme je vais essayer de le montrer, une sorte de concurrence des phénoménalités mondaines et divines, de l'apparaître des choses dans le monde et de l'apparaître de Dieu. Alors, avant de m'embarquer dans cette voie, je voudrais faire un certain nombre de remarques sur le mot même de mystique, qui est un mot très ambigu et qui peut provoquer des réactions tranchées. Soit ce mot attire, fascine, on lui palpite d'une certaine façon une promesse d'expérience spirituelle inédite, qui serait déliée de pesanteur d'une religion trop figée dans ses dogmes, et dans l'idée de mystique résonne celle d'aventure, de liberté. Le mystique va au-delà, dans des terres lointaines de l'esprit, et il trouve en lui-même l'ouverture vers son autre. Il aborde un point de fuite à l'intérieur de lui-même où l'intériorité, si on peut utiliser ce terme, s'ouvre à une présence qui l'excède. Mais à rebours, le terme de mystique, et dans les milieux universitaires, on peut souvent le constater, le terme de mystique rebute. On y voit souvent le signe d'un ésotérisme frelaté, d'une impuissance à endurer les exigences du réel ou à obéir aux sobres décrets de la raison. Donc d'un côté, la mystique serait le symbole de la liberté de l'âme dans son élan vers l'absolu. D'un autre côté, il serait le symptôme de la faiblesse et de la fuite de l'âme dans un ailleurs radieux, mais inconsistant. Ces deux attitudes ont en commun de faire de la mystique une valeur, soit positive, soit négative. Je m'interrogerai plus particulièrement sur la critique négative de la mystique, en particulier à travers la figure nietzschéenne de la critique de la mystique et la manière dont il rapproche le christianisme et la mystique chrétienne de sa critique des arrière-mondes. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais cependant préciser tout de suite ce que j'entendrai ce soir par ce vocable un peu général de le ou la mystique. J'emploie ce terme un peu par commodité, mais dans la manière dont j'ai travaillé dans mon livre, je me suis appuyé en fait sur un ensemble assez resserré de textes d'obédience chrétienne, mais qui s'inspire de la tradition platonicienne et les textes que j'ai interrogés, je me suis livré à une sorte d'enquête, vont d'une période qui va du 3e au 8e siècle, et notamment à travers trois grands penseurs et théologiens, Augustin, Saint-Augustin, Grégoire de Nice et Maxime le Confesseur. Mais je ne parlerai pas de tout cela parce que ça me prendrait trop de temps ce soir. Je me concentrerai en particulier, sous l'autorité d'Isabelle, sur Augustin. Dans ma recherche, deux auteurs ont fait exception à ce cadre. Plotin, dont je ne parlerai pas non plus parce que c'est un philosophe qui est païen, qui n'est pas un philosophe chrétien. Mais la comparaison et l'inspiration qu'a pu donner Plotin à ce courant de Grégoire, voire peut-être d'Augustin, ou même de Maître Eckhart, m'a beaucoup intéressé. Et donc Maître Eckhart aussi, et ça j'en parlerai ce soir, même si il est dans une période historique très différente, puisqu'il est à la charnière entre les XIIIe et XIVe siècles. Mais il recueille un certain nombre d'intuitions qui lui viennent soit du néoplatonisme païen, soit du néoplatonisme chrétien, notamment à travers le canal de Denis l'Aréopagite. Alors pourquoi j'ai choisi ces différents auteurs? Parce qu'ils sont traversés, chacun selon des modalités propres, par des exigences et des tensions internes analogues qui dessinent une figure particulière, historiquement située, de la mystique. Et c'est à cette tradition que je me suis intéressé. Je repérerai trois tensions constitutives de la mystique à travers ces différents auteurs. La première de ces tensions constitutives de la mystique concerne le rapport entre le silence et la parole. Les mystiques, tels que je les ai interrogés, s'affrontent d'emblée à un défi qui est un défi impossible. Donc la mystique s'affronte à l'impossible. Cette impossibilité est la suivante, il faut tenter de dire ce qui n'est pas disciple, de dire l'indicible ou l'ineffable. Il faut tenter d'exprimer ce que d'emblée ils reconnaissent comme inexprimable. Dans tous les textes que j'ai parcourus, l'expérience du divin suppose de pénétrer dans une sorte de sanctuaire, le sanctuaire du silence intérieur, où la parole s'éteint. Le caractère proliférant du discours est nécessairement inadéquat à la pure simplicité de l'absolu. Mais pourtant, on ne peut pas s'en tenir à ce constat. On doit le constater, dès que vous ouvrez un traité mystique, un texte qualifié de mystique, inlassablement, les mystiques parlent. Ils ne cessent de dire ce qui, par essence, ou plutôt par non-essence, s'échappe, hors de portée du discours. Comme si la profusion de la parole mystique était perpétuellement relancée par la transcendance indicible de l'absolu. Alors ce terme transcendance, j'y reviendrai, est un terme à prendre avec certaines pincettes spéculatives, mais parce que là encore, c'est un mot piégeux, un peu d'ailleurs comme le mot de mystique, mais j'y reviendrai. Le point qui me semble essentiel à saisir est le suivant. Il ne s'agit pas, plus le mystique parle, il ne s'agit pas de surmonter une difficulté initiale, de réduire progressivement le caractère indicible ou ineffable de Dieu. Comme si on passait d'une sorte d'outre de l'indicible vers l'outre du disciple, hein, comme si on faisait, c'était des vases communicants. L'impossibilité du discours mystique est irréductible. Et cela veut dire que le but de la parole des mystiques n'est pas de réduire l'indicible, de faire passer de l'indicible au disciple, mais tout à rebours, le but de la parole des mystiques, et c'est ce qui en fait toute la difficulté et le caractère fascinant, le but de la parole des mystiques est de préserver l'indicible. L'impératif est de dire l'indicible en tant qu'indicible, en exprimant en quelque sorte le hiatus insurmontable entre le discours et son objet. Donc ça, c'est la première tension, la tension du discours qui s'affronte à l'indicible. La deuxième tension repose sur la question de l'expérience du divin, l'expérience de Dieu. Le concept d'expérience est un concept délicat, là aussi, difficile. Parce que, en fait, il semble signifier une sorte de commensurabilité, d'homogénéité, entre celui qui fait l'expérience et ceux qui l'expérimentent. Et même on peut aller plus loin, il y a dans l'idée d'expérience une sorte de privilège du sujet qui expérimente sur l'objet expérimenté. Je m'explique, celui qui fait une expérience fixe à l'objet qu'il expérimente un certain nombre de normes, un certain nombre de lois, qui fait qu'il va modifier l'objet de l'expérience en fonction de ses normes et de ses lois subjectives. Donc c'est l'expérimentateur, si vous voulez, qui fixe à l'objet de l'expérience ses conditions de manifestation. Si l'on maintient cette définition stricte de l'expérience comme pouvoir subjectif de constituer une réalité objective, alors il faut d'emblée se rendre à l'évidence, il n'y a pas d'expérience de Dieu. Expérimenter Dieu reviendrait immédiatement à réduire Dieu à sa mesure, à le mettre sous le joug, sous la dépendance des facultés du sujet. De deux choses l'une, donc, soit il n'y a pas d'expérience mystique, et bon, on peut tout de suite arrêter là la conférence, du fait de la radicale incommensurabilité entre l'infinité de ce qui devrait être expérimenté, à savoir Dieu, et la finitude de nos capacités d'expérimentation. Soit il faut, à partir de la mystique, tenter de donner un sens nouveau à l'idée d'expérience. Et si l'on avance dans cette deuxième voie, on rencontre une tension analogue à celle qu'on a rencontrée à propos du langage. On ne peut, en régime mystique, qu'expérimenter l'inexpérimentable en tant que tel, en faisant l'épreuve de son irréductibilité au mode mondain, au mode courant de l'expérience. L'expérience mystique du divin ne doit pas être une réduction de ce qu'on expérimente aux conditions humaines, mondaines, de sa saisie, de son appréhension, mais l'expérience mystique, si on peut parler ainsi, même si le terme finalement est peut-être inadéquat, l'expérience mystique est une épreuve de l'inadéquation de l'infinité divine aux facultés qui tentent de s'en emparer. Le mystique est celui qui se sent dépassé par celui qui l'approche. Donc, j'avancerai cette thèse paradoxale. L'expérience mystique n'est fondamentalement que la saisie intérieure de l'impossibilité de toute expérience. Il y a une subversion de toute expérience au sens de domination du sujet sur l'objet. Il y a une subversion de l'expérience par ce que j'appellerais l'inexpérience mystique, qui sera au cœur du dernier moment de mon parcours, qui s'appuiera sur saint Augustin. Ma thèse, je l'exprime peut-être de façon un petit peu abrupte et difficile, mais j'essaierai de l'expliciter un peu plus loin, et que dans la mystique, la subjectivité, et le terme même de subjectivité devient inadéquat, la subjectivité est une subjectivité traversée qui est dépossédée de sa maîtrise quant à la constitution et à l'organisation de ce qu'il expérimente. Je voudrais montrer que dans l'expérience, il n'y a pas d'expérience mystique de Dieu en tant que tel, mais en revanche, et ce sera mon dernier moment, il y a une expérience, non pas du monde en tant que Dieu pourrait, que Dieu pourrait se manifester en lui, mais il y a une expérience de la création. Et donc, je ferai la distinction entre ce que l'on peut entendre par monde et par création. Et je ferai une différenciation entre le rapport entre le sujet et le monde, le sujet qui est défini par exemple par la phénoménologie comme l'origine du monde, donc ce rapport entre le sujet et le monde d'un côté, et le rapport entre l'intériorité mystique et la création de l'autre. Donc j'essaierai de montrer comment il faut passer de l'idée de monde à l'idée de création, et notamment grâce à Saint-Augustin. La troisième tension, la troisième difficulté qu'habite la mystique est relative précisément à l'apparaître divin dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation phénoménologique est la suivante. Il y a concurrence entre les phénoménalités divines et mondaines. Tous les textes que j'ai sollicités partent du même constat, en définitive. Si, dans un premier moment, l'intériorité de l'âme doit pouvoir accueillir la manifestation divine, il lui faut d'abord se purifier des apparaîtres mondains. Et les mystiques commencent tous par affirmer cette concurrence entre la phénoménalité du monde et la phénoménalité de Dieu. Et de ce point de vue-là, il y a bien une négativité mystique par rapport au monde, mais j'essaierai de montrer qu'il ne faut pas s'en limiter à cette négativité. Donc, une telle concurrence paraît bien donner provisoirement raison à ceux qui voient dans les tendances fondamentales de la mystique ce qu'on pourra appeler le symptôme d'un nihilisme, c'est-à-dire d'une négation du monde, d'un détournement du monde. Et donc la mystique, si elle doit être prise au sérieux, doit affronter une critique grave et profonde, qui est la suivante. Le mystique ne plonge en Dieu parce que son désir serait incapable d'affronter l'éclat du monde, sa force, sa dureté, sa violence et son apparité. L'élan vers les prairies de la tendresse divine révélerait un désir pauvre, nourri de ses fantasmes, auquel il faudrait opposer un désir riche, fort, capable d'avoir de l'appétit pour la facticité du monde. La mystique ne serait que l'expression la plus pure et la plus raffinée du nihilisme radical qui mine le christianisme, notamment selon Nietzsche et ses épigones, incapable d'affronter la réalité cruelle et contradictoire du monde, le mystique fuit dans l'abîme du divin. Je voudrais cependant montrer que l'identification de la mystique et du nihilisme en reste au milieu du guet. Elle ne saisit que le versant négatif du rapport entre la mystique et le monde. La critique qui fait du mysticisme un nihilisme ne retient de l'aventure mystique que le moment de retraite, de repli, dans l'intériorité, hors du monde. Mais si Dieu n'apparaît pas dans le monde, je voudrais montrer que Dieu se manifeste dans la création. L'enjeu, et je vais tout de suite essayer de le montrer, notamment à travers Maître Eckhart, l'enjeu est de saisir le monde en Dieu, selon une expression de Maître Eckhart, dans la clarté de son aurore. Saisir le monde dans la clarté de son aurore. Et j'essaierai de commenter cette remarque de Maître Eckhart. Comment saisir dans le monde ce qui, en lui, se trouve transfiguré par la lumière qui jaillit de la révélation divine. L'enjeu sera de passer de la phénoménalité du monde, purement émanante et close sur elle-même, celle donc dont le mystique se détache, à la phénoménalité de la création, où chaque être se trouve manifesté comme un effet de la libre donation de Dieu. Donc, vous l'aurez compris, le parcours que j'essaierai de faire aujourd'hui sera ce passage de la phénoménalité mondaine à la phénoménalité du créé. Alors, je le ferai en deux temps, à travers une méditation de certains passages de Maître Eckhart, et ensuite à travers une réflexion sur le concept de création chez saint Augustin. Pourquoi je commence par Eckhart, qui est du XIVe siècle, donc bien postérieur à saint Augustin, parce que on peut dire que la méditation écartienne sur la création est sans doute moins consistante que celle d'Augustin, et donc je terminerai par Augustin de ce point de vue-là. Mais ce qui m'a intéressé chez Eckhart, c'est un concept qui est au centre de sa pensée, qui est le concept de détachement, le détachement mystique. Et donc, la première question que je poserai est, est-ce que le détachement mystique, qui est un détachement du monde, en allemand « Abgeschiedenheit », est-ce que le détachement mystique, c'est la même chose qu'une fuite du monde? Est-ce que se détacher du monde, comme le font les mystiques, c'est la même chose que fuir le monde? Pour être bien compris, le détachement, tel que l'entend Eckhart, doit être saisi selon deux moments. J'étudierai l'un après l'autre. Le premier moment est négatif et il insiste précisément sur cette concurrence dont j'ai parlé entre la phénoménalité du monde et la phénoménalité de Dieu. Mais le second moment est positif. Il montre comment le détachement opère cette transfiguration de la phénoménalité et, comme je le disais tout à l'heure, devient capable de saisir le monde en Dieu. Alors, premier moment. L'élan vers Dieu ne peut être en première approche pour Eckhart que détachement du monde, car seul, pour employer le vocabulaire qui est propre à Eckhart, la décréation, la purification de tout ce qui attache l'âme au sensible permet de manifester Dieu. Pour méditer sur cette idée, Maître Eckhart s'appuie sur l'expérience vécue par Paul lorsqu'il est jeté à terre sur le chemin de Damas. C'est dans le sermon 71 des sermons allemands. Voici comment il décrit l'expérience, qui est une expérience mystique, vécue par saint Paul. Dans cet enveloppement de lumière, saint Paul fut jeté à terre et ses yeux furent ouverts, de sorte que, les yeux ouverts, il vit les choses comme néant. Et lorsqu'il vit toutes choses comme un néant, il vit Dieu. Donc le premier moment, ce qui arrive à saint Paul, lorsqu'il tombe de cheval, c'est que ses yeux s'ouvrent, mais ce qu'il voit, c'est le rien, c'est le néant du monde. Et Eckhart dit bien, lorsqu'il vit toutes choses comme un néant, comme un rien, il vit Dieu. Comment comprendre cela? Le monde tel qu'il apparaît dans la vision banale, quotidienne, renfermant en lui des choses réelles, consistantes, est vu, en fait, les yeux fermés. Ce que nous dit Eckhart, c'est lorsque nous voyons les choses dans le monde, nous avons les yeux fermés, nous n'avons pas les yeux ouverts. Qui croit, et c'est notre expérience la plus quotidienne, qui croit que le monde est, qu'il a un être solide, vit dans l'illusion. Ouvrir les yeux, comme le fait Paul, qui tombe de cheval, c'est commencer à percevoir que le monde n'est que néant. Comment comprendre cela? C'est radical. Le monde n'est rien. Et lorsque nous voyons le monde, encore une fois, nous croyons que le monde, dans l'attitude naïve, ce que les phénoménologues appelleraient l'attitude naïve, lorsque nous croyons à la réalité du monde, en fait, nous avons les yeux fermés. Le monde est néant s'il est considéré pour lui-même et en lui-même, hors de Dieu. C'est en fait ça, la pensée profonde de Maître Eckhart. Ce que veut dire Eckhart est que toute la consistance du monde lui vient de Dieu, de son geste créateur, qui soutient sa réalité. Voici ce qu'il écrit dans un autre sermon, le sermon 4. Toutes les créatures n'ont pas d'être, car leur être tient à la présence de Dieu. Dieu se détournerait un instant de toutes les créatures, elles deviendraient néant, il ne deviendrait rien. Lorsque donc Paul ouvre les yeux sur le néant du monde, sur le fait que le monde n'est rien, il perçoit son inconsistance, si on le vise, par lui-même. Or, et c'est là le point, une telle conversion est nécessaire, parce que l'apparaître du monde, les choses dans leur consistance absolue, c'est-à-dire dans les consistances pour elles-mêmes, les choses font écran à l'apparaître divin. Il y a vraiment une concurrence dans ce premier moment des phénoménalités des apparaîtres. Voici ce qu'écrit Eckhart, bon, c'est un peu la même chose. Lorsque toutes les choses, il vit comme un néant, il vit Dieu. Lorsqu'il vit toutes choses comme un néant, il vit Dieu. Il faut éteindre le monde pour que la lumière divine puisse se manifester. Je le cite encore, Sermon 71, « Tout ce que nous cherchons dans les créatures, tout cela est nuit. C'est cela que je pense. Tout ce que nous cherchons en quelque créature que ce soit, tout cela est ombre et nuit. » Éteindre le monde, l'extinction phénoménale du monde, seule condition donc pour Eckhart de l'apparaître de Dieu, suppose en fait une âme déjà convertie. C'est ce qui arrive à saint Paul. Si c'est la nuit du monde qui donne à la lumière divine son éclat, il est aussi vrai de dire, à l'inverse, que c'est la lumière de Dieu qui manifeste le monde comme obscurité. C'est parce que saint Paul commence à voir Dieu qu'il voit le néant du monde. Il dit encore dans ce sermon 71, tout ce qui n'est pas la première lumière, tout cela est obscurité et nuit. Donc, là on a, si vous lisez des pages de Maître Eckhart, vous le constaterez, on a une sorte de radicalité, de concurrence entre Dieu et le monde. Il faut, encore une fois, éteindre l'apparaître propre au monde pour pouvoir manifester Dieu, et de l'une à l'autre. Il n'y a pas de compromis. Eckhart résume cela par une image qui peut-être va être plus parlante. Celle d'un récipient, d'un vase, qui ne peut contenir à la fois deux boissons différentes, je le cite. C'est dans un livre qui s'appelle « Le livre de la consolation divine ». Donc, ce récipient ne peut contenir à la fois deux boissons différentes. S'il doit contenir du vin, c'est le vin de Dieu, il faut nécessairement le vider de son eau, c'est l'apparaître du monde. Il doit être simple et vide. De même, pour que tu puisses recevoir la joie divine, il faut absolument te vider des créatures. Alors c'est très fort et presque un peu choquant. Il faut absolument te vider des créatures et les expulser de toi-même. Te vider des créatures et les expulser de toi-même. Le livre de la consolation divine. Une âme emplie du monde peut certes tenter de se tourner vers Dieu, mais son esprit sera en quelque sorte envahi par un mélange sans saveur et sans valeur qui amalgame le créé et le créateur. De même que le vin mélangé à l'eau perd sa vigueur, perd son goût. Alors, à ce stade, évidemment, le détachement du monde qui permet de se remplir de Dieu est dangereusement proche de la fuite dont je parlais tout à l'heure. On peut présenter les choses ainsi, dans la radicalité très vigoureuse de Maître Eckhart, entre Dieu et le monde, il semble qu'il faille choisir. Mais, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut lire jusqu'au bout la méditation d'Eckhart. Relativement au détachement. L'abgeschiedenheit, le détachement, permet aussi une conversion de l'apparaître du monde. La fine pointe de ce que veut dire Maître Eckhart est qu'il ne s'agit pas seulement de se détourner des êtres mondains, mais bien plutôt de saisir le monde tel qu'il est, en Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, selon l'expression de Maître Eckhart, de saisir Dieu dans son aurore, dans sa lumière de l'aube. Le monde en Dieu, ce n'est pas seulement pour Eckhart un système intelligible, comme le fait la métaphysique. La métaphysique saisit le monde en Dieu, mais elle saisit un monde intelligible en Dieu, elle saisit des idées. Ce n'est pas cela que veut dire Eckhart lorsqu'il dit saisir le monde en Dieu, mais c'est saisir le monde en tant que jaillissant de la bonté divine. Voici ce qu'il dit dans un autre sermon, le sermon 17. Dans son fond, c'est une grande thématique du fond de l'âme, il faut retourner pour l'âme à son origine, à son fond. L'âme parvient dans ce qui est premier, dans le commencement, et j'insiste sur la phrase qui vient, dans ce qui est premier, dans le commencement, où Dieu jaillit avec bonté dans toutes les créatures. Dans le commencement où Dieu jaillit avec bonté dans toutes les créatures. Là, l'âme prend toutes choses en Dieu, non telles qu'elles sont dans leur limpidité naturelle, mais plutôt dans la limpide simplicité, telles qu'elles sont en Dieu. Donc je répète la phrase importante. L'âme saisit toutes choses dans le commencement, là où Dieu jaillit avec bonté dans toutes les créatures. Et donc je voudrais insister sur cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Eckhart fait ici la distinction entre les choses, l'existence des choses, dans leur nature, d'un côté, telles qu'elles sont en elles-mêmes, si vous voulez, telles que nous les percevons dans notre quotidien, et leur existence en Dieu. Dans leur en soi, dans leur nature, les choses ont une forme d'intelligibilité, on peut les comprendre, c'est ce que fait la science, mais c'est une intelligibilité qui est liée à ce qu'on appelle l'immanence, la structure interne du monde, du cosmos. Or, c'est bien, mais c'est en fait en Dieu que la réalité véritable des choses se révèle. La création, pour Eckhart, n'est pas seulement le reflet d'une intelligence absolue, le monde intelligible, mais elle est ce dans quoi Dieu jaillit, avec cette idée d'une rupture. Jaillissement, c'est Utzbruch, en allemand. Alors peut-être une remarque sur la différence entre ce jaillissement divin dans les créatures et un autre paradigme, qui est le paradigme, précisément, des néoplatoniciens, notamment avec cet auteur que j'ai étudié, qui est Plotin. Pourquoi, là, il y a une différence entre la mystique chrétienne et la mystique telle que les Grecs, et notamment le néoplatonisme, a pu le mettre en œuvre? Pour Plotin, l'un est un absolu, c'est-à-dire l'un c'est l'origine, c'est Dieu, et ce qui est concentré en lui-même et qui ne sort jamais de soi. Ce qui fait la grande différence entre la mystique néoplatonicienne et la mystique chrétienne, c'est précisément cette ouverture propre à Dieu dans la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire le fait que Dieu puisse jaillir et s'extérioriser, qu'il y ait une sorte d'extase de Dieu dans le monde, cela serait un scandale pour les Grecs et en particulier pour les néoplatoniciens. La bonté créatrice du Dieu judéo-chrétien suppose un rapport au créé qui est sorti de soi, qui est déchirure de l'immanence close, de la clôture de la vie divine, pour s'ouvrir à la vie du monde. Et à ce niveau des choses en Dieu, des créatures telles que Dieu jaillit en elles, il n'y a en fait pas de séparation, d'extériorité en fait, entre les dimensions de la vie divine et les dimensions de la vie créée. Saisi dans son origine, dans son commencement, le monde est divin, c'est finalement ce que dit Eckhart. Il est tout entier baigné de l'infinie bonté de Dieu. Et pour le comprendre, il faut au préalable s'être détaché du monde en tant qu'absolu, justement en tant que clou sur son immanence propre. Et donc c'est à ce point que les choses peuvent apparaître dans la lumière de l'aurore, comme le dit le sermon 8. Voici ce qu'il dit, là encore j'attire votre attention sur ce beau texte du sermon 8. Lorsque les anges connaissent les créatures sans Dieu, c'est une lumière vespérale, une lumière du soir. Mais lorsqu'ils connaissent les créatures en Dieu, c'est une lumière aurorale, la lumière de l'aurore. Quelle est cette opposition entre le monde saisi dans le soir et le monde saisi dans son aurore? Le monde, à son aurore, reste uni à Dieu, intérieur à lui. Jaillir dans les créatures, ce n'est pas, en fait, surmonter une sorte de séparation primitive entre le monde et Dieu, c'est plutôt contempler les choses telles qu'elles sont baignées par la générosité divine. Il y a deux, si vous voulez, deux visées différentes des choses du monde. Dans la première visée, la lumière du crépuscule, les choses sont saisies dans leur épuisement, dans leur fatigue du soir, si vous voulez, d'avoir à se soutenir par elles-mêmes, privées de la vigueur divine. Alors que la lumière de l'aurore, la visée des choses dans la lumière de l'aurore, les restitue à leur jeunesse première dans le cœur de Dieu, dans la création première. Cette jeunesse primitive du monde n'est pas enfuie, elle reste préservée en Dieu. L'âme, selon Eckhart, par son travail intérieur, par le détachement, parvient à voir le monde autrement, peut accéder à ce monde transfiguré, perméable à la puissance divine. Le matin de l'univers, le matin du monde, la création, et la réviviscence de l'unité du monde et de Dieu. Dans un autre sermon, et ce sera mon dernier point sur Eckhart, Maître Eckhart traduit ces deux modes d'apparition du monde en termes de donation. On est dans le sermon 12. Y aurait-il un homme à qui appartiendrait le monde tout entier? Et cet homme laisserait-il le monde pour Dieu? Donc, en quelque sorte, se détacherait-il du monde? À celui-là, à cet homme qui s'est détaché totalement du monde, notre Seigneur voudrait donner à nouveau ce monde entier et aussi la vie éternelle. Donc, j'insiste, notre Seigneur, Dieu, donc, voudrait donner à nouveau ce monde entier. Donc, c'est là où on peut contrer l'idée que la mystique serait simplement une manière de fuir définitivement le monde. Puisque, en fait, par le détachement, le monde est donné à nouveau par Dieu. Donc, comment le comprendre, cette double donation? Le monde, ou plutôt l'homme auquel le monde appartient tout entier, dans le début de la phrase, c'est le monde, si vous voulez, de la conscience naïve, qui adhère immédiatement à la réalité des choses, qui croit que le monde se soutient par lui-même, d'une certaine façon. De cette première manière de posséder le monde, l'âme doit se purifier. C'est le moment du détachement, de la décréation, c'est tout à l'heure lorsque le récipient se vide de l'eau qu'il contient. Il faut bien perdre le monde pour gagner Dieu. Mais, et c'est là le point essentiel, cette perte du monde provoque une seconde donation. Je répète la phrase, notre Seigneur voudrait donner à nouveau ce monde entier. Le monde, dans cette deuxième donation, est désormais saisi en Dieu. Chaque chose est appréhendée à partir de ce jaillissement créateur, de la générosité divine. D'une donation l'autre, d'une possession l'autre, le geste créateur de Dieu est le même. C'est-à-dire que, même dans le monde, d'une certaine façon, tel que je le perçois quotidiennement, est d'ores et déjà créé par Dieu. Mais je ne perçois pas le geste de donation, le geste de création. Seule l'extinction du monde comme subsistant en lui-même peut le faire de nouveau apparaître, mais cette fois comme l'objet d'une donation qui jaillit de la profondeur divine. Voir le monde comme donné par Dieu, c'est le voir dans sa vérité, comme l'effet de la gratuité divine. Juste une petite parenthèse, lorsque je parle de l'effet de la gratuité divine, c'est à distance de ce qu'on entend dans la métaphysique par l'origine du monde au sens du monde intelligible. C'est-à-dire que le mystique n'est pas le métaphysicien. Le métaphysicien cherche à penser l'origine du monde, encore une fois, comme un système intelligible. Le mystique ne cherche pas à rendre raison du monde, il cherche à saisir son jaillissement dans la gratuité. Et la gratuité, c'est d'un autre ordre que la raison et le fait de rendre raison du monde, comme le fait la métaphysique. Donc, bon, si vous voulez, on reviendra sur cette distinction-là, mais il ne faut pas confondre ces deux démarches, hein, celle de la mystique et celle de la métaphysique. Alors, pour conclure sur Maître Eckhart, le mouvement de la mystique eckhartienne ne se laisse pas résumer, comme j'ai essayé de le montrer, par une sorte de nostalgie de l'âme qui aspirerait à fuir le monde et qui fuirait en Dieu, qui plongerait toujours de plus en plus en arrière vers Dieu. Il s'agit bien plutôt de transfigurer la phénoménalité du monde, et je vais essayer de schématiser le mouvement mystique eckhartien. La décréation, le premier moment négatif, se purifie d'un monde orphelin, séparé de Dieu, et prétendant la pleine autonomie, c'est en fait le monde de l'athée donc, que j'évoquais au début. Mais prendre le risque de perdre ainsi le monde, c'est le retrouver. Le mystique voit le monde en Dieu et Dieu dans le monde. Il voit le monde en Dieu lorsqu'il remonte au jaillissement premier de Dieu, à l'aurore de l'acte créateur, là où toute chose baigne dans la gratuité de l'amour divin. Et il goûte, c'est l'expression encore de Maître Eckhart, il goûte Dieu dans le monde lorsque les êtres mondains n'absorbent pas en eux le désir de l'âme, mais sont aimés dans l'horizon de leur donation, de leur création. Alors, j'arrive au dernier point, celui qui concerne cette fois Saint-Augustin, et plus précisément certaines pages des confessions qui illustrent magnifiquement cette phénoménalité propre au monde créé. Je partirai d'un constat fait par Saint-Augustin lui-même dans le livre 7 des confessions 14-20. Phrase très, très belle et très, très importante. Il n'y a pas de santé d'esprit chez ceux qui trouvent déplaisante quelque partie de ta création. Je répète ce que dit saint Augustin. Il n'y a pas de santé d'esprit chez ceux qui trouvent déplaisante quelque partie de ta création. Livre 7 des Confessions. D'emblée, se trouve invalidé ce que j'appellerais un mysticisme malade, tel que le professe par exemple les gnostiques, hein, peu avant saint Augustin. Mysticisme qui n'aurait d'autre but que de fuir un monde mauvais au profit d'une sorte d'ailleurs lumineux, immatériel. La santé de l'esprit, c'est une expression qui vient du psaume 38, consiste au contraire à trouver dans l'univers un ordre, une beauté qui réjouisse le regard et ravisse l'âme. Et Augustin souligne ainsi que c'est la qualité du regard qui peut manifester ou non la splendeur du créé. Je suis le texte de Saint-Augustin. J'ai compris par expérience qu'il n'y a pas à s'étonner si un palais malade, donc le palais qui goûte, si un palais malade trouve insupportable le goût même du pain, délice même d'un palais sain, ou si des yeux malades trouvent odieuse la lumière, charme des yeux clairs. La beauté du monde ne s'impose pas d'elle-même sans la santé du palais qui la goûte et la clarté des yeux qui la contemple. Cela signifie que la manifestation du monde en tant que créé, qui seul permet de révéler sa beauté, suppose, et il y a certaines analogies à ce qu'on a vu chez les maîtres Eckhart, suppose une conversion du regard, une transformation de la disposition intérieure. Donc, il faut saisir, et c'est ce que j'essaierai de montrer, la parfaite continuité entre conversion à Dieu et conversion du regard sur le créé. Seule l'âme qui a pu éprouver originairement la bonté de Dieu en elle-même peut ensuite se tourner vers le monde comme l'effet de cette bonté. C'est la manifestation de Dieu en tant que Dieu qui permet de révéler que le monde n'est pas, encore une fois, une réalité subsistant en soi, mais un ordre créé, suspendu à la volonté d'amour de Dieu. Et il faut souligner quelque chose d'important, la beauté, finalement, dans la méditation d'Augustin, n'est pas une propriété interne au monde, mais elle est le lien entre le créé et le créateur. Lorsque je dis que le monde est beau, je ne dis pas simplement qu'il y aurait une propriété des choses, d'une belle statue, ou d'un beau corps qui serait beau en lui-même, mais la beauté des choses dans le monde, c'est la manifestation du lien entre la chose et son créateur. Donc, il faut faire un partage très important pour saisir avec justesse la pensée d'Augustin entre monde et création. On retrouve, si vous voulez, le premier moment négatif qu'on avait repéré chez Maître Eckhart. Il y a chez Augustin aussi l'idée qu'il faut se vider, d'une certaine façon, du monde pour manifester Dieu, dans un premier moment. C'est ce qu'il dit, par exemple, dans le commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Il y a deux amours, celui du monde et celui de Dieu. Deux amours, celui du monde et celui de Dieu. Si c'est l'amour du monde qui habite quelque part, il n'y a pas d'accès par où puisse entrer l'amour de Dieu. On trouve quelque chose qui sera assez proche de ce que dira plus tard Maître Eckhart. Concurrence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Alors, est-ce que c'est une sorte de retour subreptice au manichéisme de la Genèse, par exemple, d'Augustin ? Ce serait le cas, c'est-à-dire une sorte de mépris du monde. Est-ce que le chrétien, c'est celui qui doit mépriser le monde, puisqu'il y a concurrence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu ? Ce serait le cas si l'ensemble du créé se trouvait disqualifié par la mise hors circuit de l'amour du monde. Mais l'amour du monde signifie en fait l'attachement à l'extériorité terrestre, là encore coupé de son lien à la profusion divine. Aimer le monde, c'est se laisser absorber par le mouvement indéfini des apparences, sans être désormais capable de revenir à soi. Et chez Augustin, revenir à soi, c'est aussi essentiellement revenir à Dieu. Donc, dans un premier moment, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Il faut renoncer à l'amour mondain. Mais de l'amour du monde à l'amour de Dieu, il convient d'opérer une conversion radicale du désir. Et Augustin, par sa propre histoire, est particulièrement sensible à cette vanité de l'amour mondain et à la conversion de la dilection qu'exige l'amour de Dieu. Voici ce qu'il dit dans le livre 9 des Confessions. Déjà, mes biens n'étaient plus en dehors de moi, et je ne cherchais plus avec mes yeux de chair à la lumière de ce pauvre soleil d'ici-bas. Je suis sur la phrase qui vient, à vouloir sa joie au dehors, donc dans le monde si vous voulez, à vouloir sa joie au dehors, on a tôt fait de s'éparpiller dans le vide, en se répandant dans le visible et le temporel, monde d'apparence qu'on lèche de son imagination famélique. Confession, livre 9, 4, 10. À vouloir sa joie au dehors, on a tout fait de s'éparpiller dans le vide en se répandant dans le visible et le temporel, monde d'apparence que l'on lèche de son imagination famélique. Alors qu'est-ce que c'est que ce monde d'apparence ? Celui qui a ses biens en dehors de soi projette sur les êtres du monde une valeur qu'ils n'ont pas en fait en eux-mêmes. Ainsi, le désir du monde est condamné à une errance perpétuelle. Il y a une sorte de volontarisme de la joie mondaine. Ce que dit saint Augustin, c'est « volontes gaudere forinsecus ». Volontes gaudere. Le mondain veut à toute force se réjouir des biens du monde. Mais cette joie elle-même peut n'être que factice. On ne peut, selon saint Augustin, véritablement jouir du monde. On ne peut pas véritablement jouir du monde. On ne peut en fait que vouloir en jouir. Donc, à ce stade, c'est l'extériorité qui définit en propre le monde. À cette extériorité du mundus, du monde, s'oppose, chez saint Augustin, une double intériorité. Celle du moi, revenir en soi-même, c'est tout le mouvement des confessions, se chercher soi-même. Saint Augustin ne cesse de chercher lui-même, qui suis-je ? Mais en se cherchant lui-même, il s'agit de s'ouvrir sur une autre intériorité, plus profonde. L'intériorité de Dieu, la profondeur de Dieu dans l'intériorité même du moi. Hein. Dieu qui est intérieur, intimo meo, plus intime que le plus intime de moi-même. Donc vous voyez, dans ce schéma-là, le monde, le mundus, c'est le pôle répulsif. Le pôle de l'extériorité dont il faut se détourner pour accéder d'abord à l'intériorité du moi et dans la profondeur de l'intériorité du moi, à ce qui m'est le plus intérieur, à savoir Dieu lui-même. Et dans ce système binaire, le mundus représente bien ce qui s'oppose à Dieu. Le moi est à la croisée des chemins, soit il s'en tient à son identité extravertie et mondaine, soit il opte pour le sujet intérieur par laquelle il donne lieu à la présence divine. Et donc, ce parcours d'une identité à l'autre, c'est d'une certaine façon de l'identité extravertie et mondaine à l'identité intérieure et divine, c'est le parcours des confessions. Cependant, et c'est là encore c'est pareil que chez Maître Eckhart tout à l'heure, on ne peut pas s'en tenir à cette simple opposition entre le mundus et l'intériorité du moi. La pensée de la creatura, et non plus du mundus, de la création, permet à Augustin d'abolir le schéma binaire qui tranche entre ce qui relèverait du monde et ce qui relèverait de Dieu. Si on prend au sérieux l'idée de création, ce qu'elle veut dire est que, précisément, la totalité de l'être créé ne peut se tenir à l'extérieur de Dieu. Si le mundus est vide, comme il disait tout à l'heure, l'extériorité, on s'éparpille dans le vide, le monde est vide. On retrouve le néant de Maître Eckhart. La créatura, elle, est tout emplie de Dieu. Le monde, visé comme un ordre subsistant, ne peut que s'évanouir. La création saisie à partir de la générosité divine prend une consistance réelle. Voici ce que dit saint Augustin dans le livre 7 des Confessions, c'est 7-5-7. J'installais sous le regard de mon esprit l'universelle création. Toi, Seigneur, tu l'entourais de toutes parts et la pénétrais en restant illimitée en tous sens, comme une mer s'étendant partout et de tous côtés. Rien qu'une mer illimitée et à l'intérieur une éponge. Donc, cette image assez étonnante. Le monde, c'est une éponge, et Dieu, c'est la mer. Une éponge aussi grande que l'on voudra, bon, il fait une concession, hein, mais toutefois avec des limites. Éponge pleine, bien sûr, dans toutes ses parties de l'immense mer. Voilà comment ta création finie, je me la représentais, pleine de l'infini. Alors, au paradigme qu'on a étudié tout à l'heure entre le mundus vide qui s'oppose à l'intériorité, du moi et l'intériorité divine, on a un nouveau paradigme ici. La créatura, l'éponge, si vous voulez, est pénétrée de part en part par la présence divine, comme une éponge donc remplie de l'eau de mer. L'image est plus subtile qu'il n'y paraît. Ça veut dire qu'aucun interstice du créé n'est vide de Dieu. Le prix de cette image est qu'elle permet de surmonter l'opposition entre le fini créé et l'infini créateur. Si Dieu est présent partout, comme la mer dans l'éponge, l'ordre de la créature peut préserver la mesure et la limite qui lui sont propres, sans pour autant exclure de soi l'infinité divine, de même que l'éponge continue à avoir des contours, alors même qu'elle est immergée dans la mer. Autrement dit, et c'est là le point important, la limite du créé n'est pas une frontière qui tracerait le partage entre deux régions distinctes, celle du monde et celle de Dieu. Parce que s'il y avait une frontière entre le monde et Dieu, alors là c'est presque du Hegel, mais d'une certaine façon, ça rendrait contradictoire l'idée même de l'infini. Comment, si Dieu subsistait à l'extérieur de. Si le monde subsistait à l'extérieur de Dieu, on pourrait encore dire que Dieu est infini. Il y aurait une limite entre Dieu et ce qui n'est pas lui qui serait le monde. Donc dans ce paradigme, dans ce modèle, la limite propre au monde n'est pas une frontière imperméable, à partir de laquelle il y aurait une sorte d'abolition de la présence divine. Ou plutôt, ce qui fait le partage entre le monde et Dieu, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le mundus, le vide, l'extériorité. Mais dès lors que le regard se convertit, il dit « j'installais sous le regard de mon esprit », dès lors que le regard se convertit au créé, la limite propre à la créatura n'est plus cette frontière à partir duquel s'organisent deux ordres exclusifs, mais il s'agit plutôt de comprendre un point de passage où l'infini pénètre dans le fini, où Dieu pénètre dans la créature ou dans la création. Alors, on voit mieux ainsi comment s'accomplit le cheminement de la mystique. Tout d'abord, le détachement opère la déliaison, aussi bien chez Maître Eckhart que chez saint Augustin, entre le monde et Dieu. Ce dont il s'agit de se détacher, c'est la puissance du monde qui m'absorbe en lui, d'une certaine façon. C'est cette opposition entre l'intériorité subjective et l'extériorité mondaine. Mais cette opposition, il s'agit de la transgresser dans un regard vraiment mystique, et donc vraiment, on va dire, proprement chrétien, sur le monde, c'est-à-dire sur la création. L'opposition donc entre le monde et Dieu, le système qui oppose l'extériorité du monde à l'intériorité de Dieu, n'est pas l'étape ultime du cheminement mystique. Je rappelle en effet que la santé de l'esprit, dont parle Augustin, recommande de trouver de la saveur au créé. Qui dit donc création, creatura, ne dit pas monde, mundus. L'âme détachée du monde peut jouir de la contemplation du créé. Et c'est là où je reviendrai sur cette idée de transcendance, ce concept métaphysique et piégeux de transcendance. La transcendance divine n'est véritable que parce qu'elle ne se confond plus, en fait, avec une extériorité par rapport au monde. Si on dit que Dieu est transcendant, cela ne veut pas dire qu'il est extérieur au monde. En fait, la transcendance du Créateur, la transcendance de Dieu, signifie l'immersion de l'infini au sein du fini. Lorsqu'on dit, par ces termes un peu piégeux, que Dieu transcende la création, ça ne veut pas dire qu'il subit la finitude propre chose créée, comme s'il était repoussé à l'extérieur du créé, mais ça veut dire, tout au contraire, que si Dieu transcende le monde, ça veut dire qu'il pénètre dans leur intimité profonde. La transcendance divine combine donc l'infinité et l'intériorité. Elle ne se réduit pas à la dimension du créé parce qu'elle déborde de toutes parts, comme la mer l'éponge, mais elle ne se laisse pas non plus exclure de la dimension créée, elle la traverse, elle l'habite. Le détachement mystique, donc, s'il permet de manifester la transcendance divine, permet en fait de manifester la présence intime du divin au cœur de tout être créé. Alors je terminerai par un dernier point qui me semble essentiel pour comprendre, aller au bout de cette conversion du regard qui passe du mundus à la creatura, du monde à la création. Comment le mystique parvient à viser le monde de telle sorte qu'il voit en lui une créature, c'est-à-dire quelque chose qui jaillit de la générosité divine. Comment cela s'opère-t-il? En fait, il n'y a pas de sujet mystique, il n'y a pas de subjectivité mystique, je m'explique. L'idée de sujet, c'est l'idée que le sujet, comme je le disais tout à l'heure, est ce qui organise l'objet qu'il vise, qui lui fixe sa loi. C'est ce que décrit en gros la phénoménologie husserlienne, si vous voulez, où la conscience est l'origine du monde. Donc, il y a un premier, comme je disais tout à l'heure, il y a un premier coup qui serait subjectivité, monde. Le monde constitue, organise, le sujet constitue, organise la subjectivité, constitue et organise le monde. Mais l'intériorité mystique n'est pas une subjectivité. Elle est, si vous voulez, asubjective ou non subjective. Alors, j'ai développé cette dernière idée. Pour dire un mot un petit peu lourd, la mystique est un renoncement à la puissance transcendantale de la subjectivité, c'est-à-dire, le transcendantal, chez Kant comme chez la phénoménologie, c'est le fait que, justement, la conscience soit origine par rapport au monde, c'est-à-dire que le monde m'apparaît tel que je le vise. Je suis la condition de possibilité de l'apparaître du monde. Eh bien, dans la mystique, la subjectivité, ou plutôt le moi, n'est plus la condition de possibilité de la manifestation du monde. Et en fait, on le voit déjà chez saint Augustin. Ceux qui voient le monde dans le moi, ce n'est en fait, c'est le regard de l'esprit. Je vous lis un passage du livre 13 des Confessions qui me permet d'étayer cette idée. Mais pour ceux qui voient tes œuvres en ton esprit, donc ça s'adresse toujours à Dieu, en ton esprit avec un grand E, pour ceux qui voient tes œuvres en ton esprit, c'est toi qui les voit en eux. Et ça, c'est le passage le plus important. C'est toi qui vois tes œuvres en eux. Et donc, lorsqu'ils voient qu'elles sont bonnes, lorsque nous voyons que les œuvres sont bonnes, c'est en fait toi qui vois qu'elles sont bonnes. Et lorsqu'une chose plaît à cause de toi, c'est en fait toi qui plais. Et tout ce qui nous plaît par ton esprit, c'est ce qui, en fait, te plaît en nous. Bon, c'est beaucoup de formules qui sont difficiles à entendre, mais je répète la phrase essentielle. Mais pour ceux qui voient tes œuvres entrer en esprit, c'est toi qui les vois en eux. Alors, il y a différents, si on lit la suite, si on est dans le livre 13 des Confessions, il y a différents regards sur le monde. Il y a trois regards possibles sur le monde. Le premier regard, on l'a déjà rencontré, c'est celui qui déprécie l'univers. Qui dit que l'univers n'aurait pas de valeur parce que il privilégierait les réalités pures, spirituelles et supérieures. Donc c'est le symptôme d'un esprit un peu faible, malade, obligé de trouver refuge dans un au-delà préservé. Donc c'est lui qui fuit le monde, c'est le premier regard sur le monde. Mais Augustin dit que ce n'est pas le bon regard. Il dit c'est cela tiennent pour mauvais ce qui est bon. On est dans le livre 13. Ils tiennent pour mauvais ce qui est bon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de goûter la saveur du créé. D'une certaine façon, même si c'est un peu paradoxal, et que peut-être que Isabelle croit que je vais un peu loin, mais Augustin n'est pas très loin de ce qui, chez Nietzsche, sera la critique des faiseurs d'arrière-monde. C'est les esprits faibles qui sont incapacités à affirmer la valeur du monde, qui fuient dans un ailleurs acosmique. Donc ça, c'est le premier regard. Le deuxième regard sur le monde consiste à voir que ce qui est bon est bon. Donc, qui sait, qui tente de jouir des choses dans le monde. Il voit que le monde, c'est bon. Mais Augustin précise aussitôt, je le cite, « À bien des gens, ta création plaît parce qu'elle est bonne, mais sans que toi, tu leur plaises. D'où leur désir de jouir d'elle plutôt que de toi. » Deuxième regard, c'est ceux qui réduisent la création au mundus, au monde, qui se laisse absorber par la jouissance du monde, au point de se fondre en lui. Et c'est ceux qui jouissent du monde et qui sont incapables de jouir de Dieu. Mais à la limite, c'est déjà peut-être mieux pour Augustin que ceux qui se fuient dans un ailleurs sans être capables d'apprécier la saveur du monde. Troisième regard, c'est celui qui, je cite encore Augustin, qui voit qu'une chose est bonne, mais en l'homme qui voit, on retrouve la même idée, en l'homme qui voit, c'est Dieu qui voit qu'elle est bonne. C'est donc Dieu qui est aimé en sa créature, amour impossible, sans le don de son esprit. Ce troisième regard, le sujet n'est plus maître de la visée qu'il a sur les choses. En lui, c'est Dieu qui voit le monde, c'est-à-dire qui manifeste le monde comme créé. On a là sans doute la définition la plus précise du regard mystique sur le monde. Le sujet voyant se laisse traverser par un regard plus originaire que lui-même, regard qui seul manifeste l'être vu comme créature. Seul le regard divin en l'homme, ou plutôt à travers l'homme, peut manifester l'intégralité de la bonté du créé. J'insiste, le second regard, au regard quotidien, on va dire, reconnaît lui aussi cette bonté du monde, mais il la détourne à son usage, il en jouit, et le monde est absorbé dans la subjectivité. Et le regard jouisseur, c'est la bonté qui réduit le monde à la mesure de celui qui en jouit. Le troisième regard, le regard mystique, passe par le dépouillement radical de la subjectivité, qui seul permet de comprendre que ce n'est plus moi qui vois, mais Dieu qui voit en moi. Je conclurai donc sur ce que j'appellerai la circularité mystique, qui va de Dieu à Dieu. C'est Dieu qui peut révéler la bonté du créé. Mais cette bonté n'a pas sa fin en elle-même. Elle n'absorbe pas le regard, elle n'accapare pas le désir. Il faut bien faire le partage, encore une fois, entre la bonté qui se manifeste au deuxième regard et celle qui apparaît au troisième. la bonté qui s'offre à la jouissance, à l'hédoniste, si vous voulez, court-circuite la relation à son origine, à celui qui rend l'être bon. Une telle bonté fascine celui qui la perçoit, elle devient un absolu qui ne fait plus signe vers quelque chose d'autre que soi-même. La bonté manifestée par le troisième regard, qui est en fait le regard de l'esprit, est une bonté dynamique qui ouvre la voie du retour à l'origine, du retour à Dieu. Je rappelle ce que dit Augustin, « Lorsqu'une chose plaît à cause de toi, propre terté, c'est en fait toi qui plais. » Et c'est là l'idée centrale que je voudrais défendre dans la conclusion. Dans la création, c'est donc à la fois Dieu qui voit et Dieu qui est aimé. C'est là la circularité mystique. Il faut saisir la bonté à partir d'une dynamique de cette donation. La chose du monde n'apparaît pas bonne par et en elle-même, mais elle apparaît telle dans la mesure où elle a été donnée par Dieu. On pourrait établir une stricte équivalence entre être bonne et être donnée. C'est en tant que la bonté est manifestation du don qu'elle provoque le rebond du désir vers le donateur. Si vous voulez, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans un cadeau. Ce n'est qu'en surface que le cadeau plaît en lui-même. Les enfants, des fois, moi j'ai des enfants, des fois ils croient que ce qui est important c'est la valeur même du cadeau. Bon. Mais en fait, la valeur du cadeau, ce n'est pas le cadeau en lui-même, ce n'est pas l'usage qu'ils pourront en faire. Et ça, peut-être qu'ils, j'espère qu'ils comprendront plus tard. Mais la bonté du cadeau est de manifester l'affection de celui qui l'offre. La juste attitude pour celui qui le reçoit est d'aimer à travers le don le donateur. La bonté du cadeau n'est pas dans sa réalité immédiate, mais dans ce que le cadeau manifeste, le fait que je suis aimé, moi qui reçois le don. Lorsque, par conséquent, Augustin souligne que c'est l'esprit seul qui, par son regard, peut manifester la bonté des êtres du monde, il faut l'entendre au sens où l'esprit révèle dans l'ordre créé l'amour de celui qui le crée. Augustin le dit très fortement à la fin du passage, c'est cet esprit. Je suis désolé parce qu'il me manque ma dernière page. Mais en gros, c'est cet esprit qui nous fait voir que toute chose est donnée par l'amour divin. Donc, circularité mystique qui vient de Dieu. La subjectivité est traversée par un amour, enfin plutôt un regard qui nous permet de voir dans le monde les créatures, dans le monde le fait qu'elles sont données par Dieu. Et le fait de voir que les créatures sont données par Dieu permet de remonter vers Dieu. On passe donc du regard qui me permet de voir la création à un mouvement qui va de la création à l'amour de Dieu lui-même. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Très grand merci Laurent pour ton exposé. Très suggestif, hein, qui nous a très bien montré le caractère paradoxal du mystique, qui cherche toujours à dire ce qui dépasse tout ce qui est dissible, ce qui cherche à dire l'ineffable même, qui expérimente ce qui est au-delà de toute expérience, et ce qui, en quelque sorte, dessaisit le sujet lui-même de la constitution de l'expérience, en tout cas. Et le paradoxe aussi, la concurrence entre les phénoménalités mondaines et la phénoménalité divine. Et à partir de là, tu nous as bien expliqué, enfin tu as bien développé la position de Maître Eckhart en deux temps, hein, en montrant comment il y a un détachement, mais qui rend possible en fait de découvrir le monde en son jaillissement et comme donation. Et de même avec Augustin. La manière dont finalement il faut se détacher du monde d'une certaine façon, mépriser le monde en tout cas pour pouvoir le retrouver en Dieu et le découvrir avec le regard même de Dieu, et donc dans cette circularité que tu as bien évoquée à la fin. Donc très grand merci, et je suis certaine que dans la salle, l'un ou l'autre, souhaitera te poser des questions ou réagir à ton exposé. Dominique ?
partout. Alors, pour mettre écarte, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que, finalement, le Christ, c'est dans l'intériorité que l'âme le découvre. Et le problème, c'est pour ça que Maître Eckhart n'était pas forcément en odeur de sainteté, hein, le problème qui se pose, c'est que finalement, l'intériorité de l'âme ne se distingue plus du Fils. C'est-à-dire que, et c'est une tendance qu'on retrouve chez certains mystiques, c'est-à-dire que il interprète la vie du Christ comme de façon toujours allégorique, et le Christ, ce n'est rien d'autre que moi-même en tant que fils. C'est-à-dire que je dois être engendré moi-même en tant que fils, et donc l'intériorité, ce qu'il appelle le fond de l'âme, lorsque je m'engendre en tant que fils, d'une certaine façon, je ne me distingue plus du Christ lui-même. Et donc, ça pose évidemment une grande difficulté, parce que on ne voit plus finalement ce qui distingue l'intériorité mystique de la personne même du Christ. Donc, la christologie de Maître Eckhart, elle est tout à fait, comment dire, viciée, peut-être que le mot est un peu fort, mais le fait que le Christ manifeste Dieu dans le monde, d'une certaine façon, ce n'est pas quelque chose que Maître Eckhart parvient véritablement. La présence du Christ dans le monde, ce n'est pas quelque chose que Maître Eckhart parvient, et la révélation qu'il parvient véritablement à interpréter, il l'interprète toujours comme une révélation intérieure, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le Christ, il y a des formules très très fortes et paradoxales, Dieu s'engendre lui-même en moi comme il engendre le Christ. Ça, c'est la formule de Maître Eckhart. Et donc, il y a une sorte d'intériorisation radicale de la christologie peut se comprendre dans le sens d'une certaine mystique, mais cette intériorisation, évidemment, semble court-circuiter la révélation christique dans le monde. Donc, c'est pour ça que la mystique de Maître Eckhart, et vous avez raison de mettre l'accent sur ce point, la mystique du Maître Eckhart est une mystique qui n'est pas vraiment christologique, parce que, enfin, ou en tout cas, qui réduit le Christ à l'intériorité. Alors, chez saint Augustin, c'est différent, mais il y a quand même aussi cette idée du maître intérieur, hein, cette idée que le Christ, que le Christ est ce qui, en premier lieu, se manifeste, se manifeste certes historiquement, ça il le nie pas, mais que l'on découvre dans l'intériorité de l'âme. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas bien répondu à votre question. Mais
c'est significatif que les textes.
Alors, la dernière partie de votre question pose encore une autre difficulté centrale, hein, qui est la question du mal, hein, de l'autre, mais j'ai envie de dire, c'est au premier chef, l'autre homme, qui est l'expression la plus profonde et la plus belle de la création, d'une certaine façon, de l'être donné. Mais je reviendrai peut-être pour vous répondre sur justement la distinction entre la catégorie que j'ai essayé de mettre en relief, entre la question du monde et la question du mundus et la question de la creatura. L'autre peut être visé, justement, pour reprendre les derniers textes de Saint-Augustin, de deux façons différentes. Il peut être visé comme celui dont je jouis, donc il y a une forme de bonté, mais finalement, que je m'approprie. Mais il peut être visé aussi comme celui qui manifeste une donation qui est plus grande que lui-même, d'une certaine façon. Et le comprendre comme créature, et pas simplement comme celui dont que je peux... manipuler, ou que je, ou que que je peux, qui serait absorbé par ma propre puissance de désir, de jouissance ou de subjectivité, ça suppose justement cette conversion où l'autre homme, s'il n'est plus simplement mondain, mais s'il est créé, je ne le vois plus simplement comme celui auquel j'impose mes catégories, mais l'altérité véritable de l'autre homme, je pense qu'elle, en tout cas dans la configuration que j'essayais de mettre en place, notamment chez saint Augustin, l'altérité de l'autre homme, elle passe précisément par le fait de voir en lui celui qui manifeste la grandeur de Dieu et la générosité de Dieu. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'ordre du créé, c'est le point d'incandescence où le geste généreux, libre et créateur de Dieu se manifeste au plus haut point, d'une certaine façon. Alors après, je dois dire que j'avais... C'est plus difficile, hein, la question de la... Si l'autre homme, agit mal, comment je le vise En tout cas, dans la mystique, il s'agit toujours de... Si je le vise par l'esprit qui voit en moi, je ne le réduis pas à sa faute. C'est-à-dire que si je suis moi-même traversé, si je ne vois pas les créations, comme le dit saint Augustin, simplement par mon regard, mais parce que l'esprit voit en moi, ce n'est plus moi, mais l'esprit qui voit en moi, eh bien, je ne le réduis pas à sa faute. Peut-être que l'on pourrait répondre comme cela. Alors là, théologiquement, je pense qu'on aborde d'autres parages. C'est la question de la faute et le fait que la nature est blessée, hein, d'une certaine façon. La création dont je parle, c'est la création restaurée, justement, dans, comme disait Eckhart, dans l'origine même de Dieu, c'est-à-dire pas la création blessée par la faute. Hein. Là, il y a aussi... Bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, que peut-être que ça ouvre une autre piste, hein, mais... La création dont il s'agit, c'est la création restaurée dans le plan d'amour de Dieu, d'une certaine façon, et pas la création défigurée par le mal. Je pense pas que ce soit une fuite. Je pense pas que ce soit une fuite parce que. Parce que je pense que justement, ne voir que cela, ce serait avoir un palais qui ne serait pas saint, dirait saint Augustin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire, ça veut dire qu'on réduit le monde justement à ce qui en lui fait écran, justement, les manifestations de Dieu. Si on s'en tient là, effectivement, mais ça ne veut pas dire se détourner du monde, mais ça veut dire... Merci beaucoup, oui, c'est pour cette question. Alors, je répondrai en deux temps. Chez les auteurs de la tradition que j'ai interrogée, il y a un peu ce glissement possible vers une sorte de non-reconnaissance, finalement, de l'altérité véritable du Créateur. Parce qu'ils sont... par un certain nombre de philosophies, notamment néoplatoniciennes, et il y a effectivement cette tentation possible que vous évoquez par rapport à laquelle il faut être vigilant. Il y a un texte de saint Augustin que je n'ai pas évoqué, mais où il dit qu'il faut aussi entendre la parole, en fait, et qu'il faut être que dans la création, il faut être à l'écoute de la parole. Et c'est pas seulement, peut-être justement que je dirais que le paradigme de la vision est piégé par rapport au paradigme plus biblique, comme vous dites, de la parole et de l'écoute. Et il y a de très très belles pages, effectivement, d'Augustin. Alors là, pour le coup, on peut pas le réduire, effectivement, à cette tentation, parce que sur l'écoute et sur la louange, et sur le fait que la création est louange. Et je pense effectivement que ce deuxième paradigme de la parole et de la réponse à la parole, qui est la création comme louange, respecte beaucoup mieux finalement cette intuition proprement chrétienne, du rapport entre la création et la créature. Merci, merci beaucoup pour ce... Oui. Chez les cartes, justement, c'est un problème parce que, en fait, il y a une telle union que finalement, il y a une unité et que l'espace d'altérité, à un moment donné, il semble disparaître.
Peut-être que je vais moi-même réagir un tout petit peu à propos de l'éponge, si tu veux bien.
Oui, oui.
Bon, parce que je suis bien d'accord avec ce que disait Dominique Salin. En fait, le texte, est, en réalité, ne correspond pas, si tu regardes, c'est à l'imparfait. Et en fait, c'est avant la conversion d'Augustin, c'est même avant sa lecture des platoniciens. Et en réalité, ça correspond à sa difficulté d'arriver à se libérer de la vision manichéenne. Donc, il voit encore tout dans l'espace. Et en fait, il y a une sorte de transition. On a parlé quelquefois d'une vision stoïcienne pour ce passage, pour essayer de comprendre cette sorte d'immanence, enfin, Dieu pénétrant le monde. Et en réalité, c'est pas du tout, finalement, il critique en réalité cette représentation du monde. Et donc, c'est juste après, donc, effectivement, qu'il y a la lecture des platoniciens, et donc là, qui comprend qu'il y a un écart, malgré tout, que précisément Dieu n'est pas pure immanence au monde. Hein. Et peut-être aussi dans le prolongement de ce qu'évoquait Dominique encore à propos du Christ, il est certain que tu as privilégié, là, dans les textes que tu as cités, qu'il s'agit de Confession 7, Confession 9, ou même Confession 10, que tu as un tout petit peu évoqué, en tout cas que tu évoques dans ton livre, hein, je vais peut-être... donc des textes qui représentent sur qui partent sur un chaîne d'anabase plotinienne, en gros. Hein. Mais ce qui me semble intéressant, par exemple, dans le texte de Confession 7, c'est que tu as l'ascension, d'ailleurs, qui est répétée à plusieurs reprises, hein, de degré en degré, et en fait, tu as une sorte d'échec, de constat d'échec et de retombée, enfin, en tout cas, une sorte de retombée, où Augustin constate qu'il est incapable, en fait, de jouir durablement de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Je n'étais pas encore assez humble pour tenir l'humilité du Christ, enfin l'humilité de Dieu. » Enfin, la phrase, je ne te la dis pas exactement de mémoire, mais et à ce moment-là, oui, du verbe, effectivement. À ce moment-là, si tu veux, intervient le Christ, et toute la fin du livre 7 ouvre précisément sur la médiation du Christ avec la lecture de Paul, qui va être complètement décisive dans son itinéraire. Et en fait, ce schème n'est pas du tout propre exclusivement au livre 7 des Confessions, parce que quand tu regardes le commentaire du psaume 41, je ne sais pas si tu vois ce texte, qui est un admirable texte aussi mystique, enfin, où tu as tout à fait le même schéma, même chose, tu as une sorte de retombée, et ben, finalement, ce qui sauve, c'est l'espérance que le Christ peut nous arracher à cette retombée et au pouvoir du mal. Et donc, il me semble que... oui, enfin, je crois qu'il faut aller encore un peu plus loin, que si tu veux, c'est un premier... un départ, mais en fait, Augustin ne s'arrête pas là, quoi. C'est ça ce qu'il me semble. Enfin, je ne sais pas comment tu...
Merci beaucoup. Oui, oui. Non, mais du coup, il faudrait que je revoie effectivement ce passage sur l'éponge. Mais... Alors, stoïcien... Je ne sais pas si c'est vraiment stoïcien, hein, mais...
Oui, enfin, on a dit inspiré par des représentations stoïciennes. Quoi. On sent en tout cas que c'est une représentation intermédiaire, parce qu'il n'arrive pas à se libérer des représentations manichéennes, en fait. Donc, il voit tout dans l'espace.
Oui, c'est ça.
Et tandis que, quand il lit les néoplatoniciens, il commence à comprendre qu'il y a des réalités autres que spatiales et corporelles. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il se représente Dieu de façon quasi-corporelle, en fait. Il me semble, hein. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Et puis peut-être qu'une dernière remarque que je ferai là tout de suite, c'est, tu as cité ce beau texte Descartes sur la connaissance vespérale et la connaissance aurorale, je ne sais plus comment tu l'as appelé, matutinale. Bon, mais en fait, ça vient d'Augustin. Ça vient d'Augustin, ça vient du De Genesi ad Literam. Et c'est très développé dans le De Genesi ad Literam. Et c'est extrêmement intéressant, y compris aussi peut-être pour répondre à la question de Francis Guibal, parce qu'en fait, les anges commencent par avoir une connaissance vespérale, c'est-à-dire quand le monde est créé, enfin quand telle, mettons la lumière, ou enfin non, je ne vais pas prendre la lumière, mais disons, une réalité quelconque du monde est posée en elle-même, et la connaissance matutinale, c'est quand, au contraire, cette connaissance est rapportée à Dieu. Et alors, à ce moment-là, c'est le matin, parce qu'en fait, ça correspond au commentaire de Genèse 1, où il y eut un soir, il y eut un matin. Et donc, le soir, la créature est posée, en quelque sorte, dans son extériorité, et le matin, c'est quand elle est ramenée à Dieu dans la connaissance angélique. Voilà, bon, ben, c'est peut-être un peu compliqué, mais je trouve que c'est intéressant par rapport à Eckhart, il me semble. Voilà. Oui, monsieur ? Alors, peut-être quand même que moi, puisque vous avez l'air de penser, par exemple, qu'un Augustin ne s'intéresse pas du tout à la science, c'est complètement faux. C'est-à-dire que si vous prenez un ouvrage comme celui que j'ai évoqué, La Genèse au sens littéral, il a en son temps, avec la science de son temps, essayé de penser la création. Et objectivement, c'est un livre qui est, à mon avis, extrêmement riche et passionnant, où il utilise toutes les connaissances scientifiques de son temps, qu'il a à sa disposition. Il essaye de. Et donc, je dirais qu'il y a un véritable amour du réel, de ce point de vue-là. C'est du réel tel que vous appelez le réel comme objet de science. Monsieur ? Attendez, si vous voulez bien, c'est chacun son tour. Tout le monde ne peut pas. Je donne la parole, si vous le souhaitez.
Alors, donc vous me demandez si j'ai eu des expériences mystiques. Alors, je vous répondrai non. Simplement, j'ai plutôt fait une enquête sur ce que nous disent les mystiques de leurs propres expériences. Donc, je suis parti de cela et le témoignage qu'ils donnent. Et moi, je prétends pas avoir été aussi loin dans... dans mon propre parcours que justement Augustin, Eckhart ou Grégoire. Et donc ma démarche a été de voir qu'est-ce qu'ils nous en disent et finalement comme une enquête sur un témoignage d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que c'est un objet historique clos comme qui ne nous parlerait pas et qui ne serait pas exploitable pour notre propre vie intérieure. Je pense qu'il faut lire les mystiques pour nous-mêmes, si on est croyant ou si on est en recherche, nous-mêmes essayer de orienter notre propre expérience, de lui donner des directions. Moi-même, si vous voulez, dans mes propres expériences intérieures, si vous voulez, je ne peux pas témoigner de quelque chose qui aurait un intérêt particulier à exposer. Je pense que les mystiques l'ont fait. Non seulement ils ont eu cette expérience, mais en plus, ils ont été capables de la transcrire. Et donc, lorsqu'on lit les mystiques, ce qu'on appelle les mystiques dans la tradition, c'est précieux parce que justement, non seulement ils témoignent de quelque chose qui est sans doute hors du commun, mais en plus, ils sont capables d'en rendre raison. Donc, c'est pas parce que moi-même, je ne prétends pas être forcément un mystique qu'on ne peut pas s'intéresser à ce qu'ils nous ont dit. Juste pour vous répondre, je pense que c'est vrai qu'il y a deux lectures possibles. Soit on le lit en explorateur d'une expérience un peu révolue, un peu en historien, mais en historien un peu détaché, en disant, bon voilà, c'est une sorte de témoignage de quelque chose qui a eu lieu, mais qui ne me parle pas et qui ne me concerne pas. Mais ce qui est possible aussi, soit on le lit comme des maîtres spirituels, d'une certaine façon, qui peuvent orienter notre propre expérience intérieure. Mais les deux lectures, je pense, sont possibles, mais on voit bien d'ailleurs que... Enfin, moi, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, par exemple sur Plotin, qui est quand même aussi, non seulement un philosophe, mais aussi qui témoigne d'une véritable expérience intérieure. Il y a deux approches. Soit l'approche universitaire, très technique, où l'on a l'impression que beaucoup de gens lisent Plotin sans comprendre véritablement ce dont ils parlent. Mais il est possible de faire des colloques entiers sur Plotin sans que personne ne voit ce qui est en jeu. Et il y a une autre approche de Plotin qui est peut-être plus intéressante, en tout cas. Qui n'est pas plus intéressante, sinon je renie aussi une partie de mon propre travail. Mais en tout cas, il y a une expérience où on aborde Plotin parce que, dans ce qu'il décrit, il y a quelque chose aussi qui parle à notre humanité, d'une certaine façon, et qui résonne avec notre propre expérience. Donc, il est possible, je pense que les deux voies sont effectivement possibles. Mais... Alors, dans les mystiques que j'ai interrogés, il y a quand même une... Comment dire ? Ils prennent pied quelque part et ils ne reviennent pas. C'est-à-dire, par exemple, Maître Eckhart dit... il ne faut pas vivre simplement dans ta cellule, il ne faut pas vivre hors du monde, mais il faut vivre dans le monde parce que tu possèdes Dieu en substance, il dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas simplement parce que tu penses à Dieu que tu il ne s'agit pas d'être tout le temps concentré sur Dieu, c'est pas ça la mystique, c'est pas tout le temps penser à Dieu, parce que dit c'est pas possible. Mais en revanche, une fois qu'on a fait l'expérience dont il parle, Dieu est présent en substance, alors c'est dans son vocabulaire, mais ça veut dire que Dieu l'accompagne dans tous les gestes de la vie, dans toutes les situations de la vie. Pas seulement lorsque le sujet mystique, en quelque sorte, est en oraison, ou qu'il est tout seul dans sa cellule, mais il dit Dieu t'accompagne dans toutes les situations, même lorsque tu marches, il dit même lorsque tu marches dans les rues de la ville. C'est-à-dire que une fois, en tout cas pour Eckhart, une fois que l'accompagnonnage ou l'accompagnement entre l'homme, entre l'âme et le divin a lieu, elle est inaliénable d'une certaine façon. Mais après, des allers-retours, des difficultés, il y en a sans doute, mais c'est pas ça dont ils témoignent. C'est ce que j'ai essayé, mais apparemment, je n'ai pas été très clair. Mais je ne suis pas en désaccord avec vous, je suis d'accord avec vous, et je pense effectivement que le jaillissement dans la parole mystique est quelque chose de tout à fait bouleversant. Et, après, le problème, c'est que si on parle de ça, moi, je ne suis pas là pour écrire un poème mystique, vous voyez, c'est la difficulté. C'est-à-dire que si on parle de ça, on est bien obligé d'essayer de... mettre en concept ce dont il s'agit. C'est juste. Après, peut-être que ma démarche, vous la trouvez pas valide, mais je vais pas employer moi-même le langage de la mystique. Je suis obligé de le mettre à distance, ce langage-là. Oui. Oui.
Bon, je crois quand même que c'est difficile de soutenir cela. Je crois simplement, monsieur, que je défends Laurent. Je pense simplement que c'est une autre type de conceptualité, c'est une approche philosophique. Vous pouvez préférer une approche du type de celle de Michel de Certeau ou une approche ou simplement le langage mystique. Mais moi, personnellement, je voudrais peut-être conclure cette soirée en soulignant la pertinence de cette approche philosophique de la mystique, quels que soient les débats qu'elle suscite. Mais au moins, ça veut dire que nous n'étions pas indifférents au discours que Laurent nous a tenu et qu'il touche C'est évident que je pense aussi, j'avais failli te poser une question, peut-être que tu auras envie d'y répondre, mais ça ne peut pas être complètement indifférent que tu choisisses de travailler sur Mystique et Monde. Parce qu'après tout, tu as fait des ouvrages typiquement universitaires sur Plotin. Bon, je ne pense pas que c'est complètement indifférent que tu arrives à un sujet comme celui-là.
Ah non, c'est pas indifférent. Juste là pour répondre à ta question, c'est aussi pour moi une approche qui est différente de l'approche universitaire. J'ai essayé, effectivement, qui tranche, c'est plus un essai, et qui est beaucoup plus personnel, effectivement, que mes travaux universitaires habituels, c'est vrai.
Voilà, en tout cas, un très grand merci pour cette bonne soirée.